voir maintenant. Nous trouvons que Dieu est impressionnant et qu'il veut impressionner les hommes avec le fait qu'il est incomparable, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de toute autre chose et de toute autre personne. Il est à la fois tout autre que n'importe laquelle autre chose ou autre personne, et il est précieux, incomparablement précieux. Je ne sais pas comment exprimer ça, je voulais le dire, mais comment on peut dire que Dieu est précieux? Il faut vraiment connaître Dieu et l'apprécier. Il n'impressionne pas par ses actions de sainteté de cette manière, parce qu'il est égoïste ou parce qu'il est orgueilleux, mais parce qu'il aime. Et parce qu'il veut que tous les hommes comprennent que leur salut ne se trouve qu'en lui, qu'il n'y a pas d'autres qui peuvent les sauver ou qui peuvent les bénir comme lui, il peut les bénir. Donc il faut se rappeler aussi qu'avant le péché de l'homme dans le jardin d'Éden, cette manifestation frappante de la sainteté de Dieu que nous allons voir n'était pas aussi apparente. Il était toujours saint, Dieu, c'est pas qu'il n'était pas saint, mais jusqu'au péché, la relation de Dieu avec Adam et Ève est décrite comme une amitié. Une amitié où Dieu venait parcourir le jardin avec eux avec la brise du soir. Ça c'est Genèse 3, verset 8. Dieu venait le soir se promener avec Adam et Ève. Voilà la relation qu'avait l'homme avant la chute. Il avait donné quand même le commandement à Adam à ne pas manger de l'arbre du bien et du mal, avec l'avertissement que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Après l'introduction du péché dans le monde, Dieu devait mettre l'homme sur ses gardes, afin qu'il ne soit pas détruit. Les manifestations de la sainteté, donc, sont des avertissements frappants, et des rappels urgents qu'il y a un Dieu et qu'il est toujours pur, comme l'homme avait été pur avant la chute. Quand l'homme a été créé, il était innocent et pur. Les manifestations de la sainteté démontrent aussi et rappellent aux hommes qu'il y aura une ligne à ne jamais traverser s'ils craignent pour leur vie. Afin d'entrer dans la présence de Dieu, il faut se sanctifier et se consacrer. Là où avant le péché, il y avait libre accès à Dieu, même une amitié intime, il y a maintenant des règles strictes à respecter. Et sans ce respect, on ne peut pas voir Dieu, on risque même sa vie. Je l'ai dit ça 3 ou 4 fois déjà, n'est-ce pas? Bon, nous allons voir donc 4 exemples de la sainteté pure et exigeante de Dieu. Le premier exemple sera la montagne sainte où Moïse a rencontré Dieu pour la première fois. Ça c'est en Exode chapitre 3 et même une lecture de ce récit est frappante. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et se rendit à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire et pourquoi le buisson ne brûle pas. » L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « C'est moi le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse cacha le visage, car il craignait de diriger ses regards vers Dieu. Bon, il y a deux choses significatives dans ce texte. qui se retrouvent souvent dans la Bible, partout où il y a question de la sainteté de Dieu, c'est le feu et la crainte. Le feu et la crainte. Premièrement donc, le feu est souvent associé avec la sainteté de Dieu. Il était dans le feu, ou des choses associées au feu comme la fumée, que Dieu se manifestait le plus souvent à Israël. C'était le cas pour Moïse devant le buisson ardent ici en Exode 3. Et à cette occasion, le commande de Dieu était « ôte tes sandales de tes pieds ». Pourquoi? Car la terre même à cet endroit était sainte. Pourquoi était-elle sainte? Parce que Dieu était là. Là où il y a la présence de Dieu, il y a sainteté. Et en ce qui concerne la Terre Sainte, nous trouvons presque le même scénario. Quand, jusqu'avant la bataille de Jéricho, Josué avait rencontré l'ange qui était le chef de l'armée de l'Éternel. D'abord, lorsque Josué s'est rendu compte que ce n'était pas un homme en face de lui, mais un ange envoyé par Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, il s'est prosterné devant cet ange, pas pour l'adorer, mais pour lui montrer du respect, parce que cet ange représentait la sainteté de Dieu. Ensuite, comme Dieu avait commandé à Moïse, l'ange a commandé à Josué d'ôter les sandales de ses pieds, car le lieu était une terre sainte. Pourquoi? Parce que Dieu était présent, ou représenté, sa sainteté représentée par cet ange qui était le chef de son armée. Là où il y a la sainteté de Dieu, tout et saint. Revenons maintenant au feu. Il y a d'autres cas aussi où Dieu se révélait dans le feu, juste avant de donner la loi. En effet, en donnant la loi du mont Sinaï, chapitre 19 d'Exode, le mont Sinaï était tout en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'est levée comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Et puis chapitre 24, Moïse monta sur la montagne, et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel demeura sur le mont Sinaï, et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du sein de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était aux yeux des Israélites comme un feu dévorant au sommet de la montagne. Et ça nous rappelle le texte en hébreu, notre Dieu est un feu dévorant. Et là, il parle de gloire aussi, la gloire était comme un feu dévorant, quelque chose de rayonnant. D'autres termes associés avec le feu, ou qui associent le feu avec la sainteté de Dieu, quand vous lisez dans l'Ancien Testament, sont la lumière, la chaleur, la fumée, la flamme, la braise, la fournaise, la chaudron, le chaudron, les cendres, le soufre. Et nous trouvons aussi des verbes comme enflammer, consumer, brûler, allumer, éteindre. Et tous ces mots sont associés à la sainteté de Dieu. Nous avons lu tout à l'heure la vision d'Ésaïe, dans le chapitre 6 d'Ésaïe, quand il a vu le Seigneur dans le temple. Et dans la continuation de cette vision, c'était l'un des séraphins, ou littéralement l'un des brûlants, parce que le mot séraphin veut dire le brûlant, qui a pris une braise pour purifier les lèvres impures d'Ésaïe. Vous voyez l'image là de sainteté, comment il est rendu saint par la braise qui est portée par un être brûlant, c'est-à-dire de sainteté. Deuxièmement, il y a toujours la crainte devant la sainteté de Dieu. Moïse, il avait caché son visage parce qu'il avait peur de regarder vers Dieu. Ésaïe avait crié « Malheur à moi !» car il s'est rendu compte qu'il était impur tout en étant en présence de la pureté absolue qui était Dieu. Deuxième exemple de la sainteté de Dieu, c'est la montagne sainte où Moïse a reçu la loi. Même montagne où il a rencontré Dieu pour la première fois. La montagne s'appelait par 3 noms, la montagne de Dieu, Horeb et Sinaï. Et dans la première rencontre, c'était un buisson en feu. Et la terre sainte qui représentait ou qui témoignait plutôt de la présence de Dieu. Lorsque Moïse a reçu la loi, et aux autres occasions, quand il montait sur la montagne, comme on a déjà lu Exode 24, le mont Sinaï était tout en fumée, il tremblait violemment, ou comme dit le verset chapitre 24, la gloire de l'Éternel était aux yeux des Israélites comme un feu dévorant au sommet de la montagne. Mais en plus du feu, il y avait la fumée et un tremblement de terre qui signalait la présence sainte de Dieu. La montagne même est devenue sainte. Là où Moïse a rencontré Dieu, il semble que peut-être que la petite surface où il était là, quand il était devant le buisson ardent, était sainte. Mais maintenant, c'est toute la montagne qui est sainte. Et comme Moïse ne pouvait pas toucher l'endroit où il était qu'avec les pieds nus, personne d'autre avait le droit de le toucher du tout, sous peine de mort. On va lire Exode 19, 10 à 13. L'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-le aujourd'hui et demain, qu'il nettoie le vêtement, qu'il soit prêt pour le troisième jour, car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour en disant, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne portera pas la main sur lui, mais on le lapidera, ou bien on le percera de flèches, bête ou âme, et ne restera pas en vie. Bon, il y a quatre choses à remarquer dans ce texte ici, où Dieu a montré à son peuple et à nous des choses importantes au sujet de sa sainteté. D'abord, pour entrer dans sa présence, il a fallu se préparer et se purifier. Pendant deux jours, ils ont fait cela. Ils ont nettoyé leurs vêtements, ils se sont nettoyés, ils se sont préparés. Pour le troisième jour, Dieu est apparu. Ensuite, il ne fallait pas même toucher la montagne, car le Dieu Saint lui-même y était descendu. Il ne fallait pas le toucher. Et puis, c'était la peine de mort pour celui, humain ou animal, qui touchait la montagne. Finalement, pour mettre à mort l'imprudent, il ne fallait pas le toucher. Et il devait le lapider ou le percer de flèches de loin. Pourquoi? Car en touchant la montagne, cette personne ou cet animal qui était saint, la montagne qui était sainte, à cause de la présence sainte de Dieu, le transgresseur est devenu saint, est devenu un objet saint, si vous voulez. Ainsi, si on touchait le transgresseur pour le mettre à mort, on devenait saint à son tour et ainsi passible à la peine de mort. Parce que l'impureté ne peut pas toucher ce qui est saint. Mais en même temps, ça devient quelque chose de consacré. Où il y a un terme dans Josué au sujet d'Israël, de Jéricho, voué à l'interdit. C'est ça, on devient voué à l'interdit par cette sainteté de Dieu. Donc, sans une consécration spéciale accordée par Dieu, comme celle du souverain sacrificateur, par exemple, même la personne rendue sainte simplement en touchant ce qui était saint, chose qu'elle ne devait pas faire, cette personne était condamnée à mort. Bon, ceci est extrême, je sais. Et il est difficile à saisir, à comprendre, et j'imagine pour beaucoup de gens, difficile à accepter. Mais cela montre l'extrémité de la sainteté de Dieu. Dieu veut impressionner. Il veut impressionner pour que l'homme respecte et crainte de sa sainteté. Sa sainteté est tout autre que ce que nous connaissons. Et ces exemples frappants sont donnés exprès par Dieu, pour que nous saisissions un petit peu, au moins, l'importance de notre propre sainteté ou la gravité de notre impureté, de nos péchés. Ces exemples, ces actions de la sainteté de Dieu nous montrent l'importance de lui obéir selon ses instructions. Elles sont données pour notre bien. toujours pour notre bien. Il faut toujours nous rappeler de cela, que Dieu nous aime et il fait tout cela pour notre bien. Et si on peut saisir l'extrême de sa sainteté, on peut, j'espère, avoir une meilleure idée de comment il faut agir et on sera plus motivé d'agir avec sainteté envers Dieu et les uns envers les autres. Mais vous savez, après avoir donné cet exemple de Exode chapitre 19 sur la montagne, il ne fallait pas toucher la montagne, sinon il fallait lapider la personne ou envoyer des flèches pour le tuer. Je ne connais aucun exemple dans la Bible où une personne a été mise à mort parce qu'ils ont touché la montagne. Je dirais que l'avertissement de Dieu a donné à travers Moïse a été efficace. Ça a fait peur. Mais plus loin dans le prochain chapitre, en Exode chapitre 20, pour voir combien Dieu a impressionné le peuple avait trop peur même pour écouter la voix de Dieu. Et c'est là qu'ils ont dit, mais non, Moïse, tu nous parles, mais ne laisse pas parler Dieu parce qu'on va mourir. Et parce que jusqu'à là, c'est Dieu qui donnait la loi haute voix de la montagne. Et ça a fait tellement peur qu'ils ne pouvaient plus le supporter. Donc ils ont demandé à Moïse de parler à la place de Dieu. Troisième exemple de la sainteté de Dieu, c'est l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance était un coffre rectangulaire fait en bois et couvert d'or pur et qui servait à deux fonctions importantes. Premièrement, elle ne contenait au début que les deux tables de la loi, qui est appelée aussi le témoignage. Les deux tables de la loi qui étaient appelées le témoignage. Et, ça c'est la première fonction, contenir un endroit pour mettre les tables de la loi. Et deuxième fonction, c'était l'arche qui servait comme l'ultime lieu de rencontre avec Dieu. L'ultime lieu de rencontre avec Dieu. Par la suite, l'arche contenait aussi un bol de la manne et aussi le bâton d'Aaron qui avait bourgeonné afin de prouver qu'il avait la prêtrise, qu'il était le souverain sacrificateur que Dieu a désigné quand il y avait une contestation avec cela. Mais aussi important, sinon plus important, que le fait que l'arche contenait ces choses-là, c'était lieu de rencontre, voilà ce qui est important. Le couvercle de l'arche, en or pur, avec les deux chérubins qui se regardaient face à face, s'appelait le propitiatoire. Le propitiatoire. Et le terme propitiatoire ne désignait pas simplement le couvercle de l'arche, mais évoquait à la fois le lieu et l'acte par lequel le sacrifice expiatoire rendait Dieu propice aux pécheurs pour les pardonner de leurs péchés. Pour rendre Dieu propice, le sacrifice était fait là. Il y avait le sang qui était mis avec la pousse du souverain sacrificateur à cet endroit sur le couvercle. C'est très minutieux ce qu'il devait faire. Mais c'était aussi entre les deux chérubins que Dieu rencontrait ceux à qui il donnait des ordres, comme Moïse, par exemple. Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel, parce qu'une fois que le tabernacle a été construit, et bien sûr plus tard le temple, après, il n'y avait que le souverain sacrificateur qui pouvait aller en présence de cette arche. Mais jusqu'à là, Moïse aussi avait le droit, bien qu'il ne soit pas souverain sacrificateur, il quand même rencontre Dieu dans la tente, ou devant la tente de rencontre, c'est-à-dire le tabernacle. Bon, l'arche trouvait sa place dans le lieu le plus saint d'Israël, dans la tente appelée le tabernacle et plus tard le temple, ce lieu s'appelait le Saint des Saints. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais une photocopie ça c'est l'extérieur du parvis, si vous voulez, du tabernacle, et pour le tabernacle même, et il était divisé en deux parties, rectangulaire. Première partie, le lieu saint, et puis la place derrière le rideau, c'était le lieu, le saint des saints. C'est là que se trouvait l'arche de l'Alliance. Et cette pièce-là était en cube, aussi haut que large que long. partie d'État, mais pendant, pardon, pour montrer la sainteté de ce lieu, c'est-à-dire le Saint des Saints, seulement le souverain sacrificateur avait le droit d'y entrer seulement une fois par an, pour entrer en présence de Dieu. Parce que le couvercle propitiatoire représentait la présence de Dieu. Et pendant qu'il était dans le Saint des Saints, aucune autre personne avait le droit d'être même dans d'autres parties du tabernacle ou du temple, c'est-à-dire le lieu saint. Il ne devait pas être même dans sur les lieux. Avant d'entrer lui-même dans le Saint des Saints, en présence de l'Arche de l'Alliance, il y avait toute une série d'actes rituels et purificateurs que le souverain sacrificateur devait accomplir afin de ne pas mourir lui-même. Tel que entrer d'abord dans le lieu saint, il entre dans le lieu saint, il se déshabille, il se nettoie tout le corps, il se réhabille, et après cela, il présente une offrande, un sacrifice pour le sanctuaire et pour lui-même, et ensuite, et seulement ensuite, présenter un sacrifice pour le peuple sur le propitiatoire. Et là encore, comme j'ai dit, il y a toute une série d'actes significatifs qu'il devait accomplir en mettant ce sang sur le couvercle qui était le propitiatoire, l'endroit qui rendait Dieu propice envers le péché. Lévitique 16, verset 2. L'Éternel dit à Moïse, « Parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. » Quatrième exemple qui est lié à l'arche, c'est Uzza. De Samuel 6. Tout à l'heure, en parlant de la pureté qui fait partie de la sainteté de Dieu, j'ai dit que lorsque Dieu est présent, une fois qu'il est présent, toute chose associée à lui, ou avec lui, ou touchée par lui, ou qu'il a déclaré sainte, ne peuvent plus être touchées par l'homme sans que l'homme ait rempli certaines exigences, autrement, il meurt. Et c'est-à-dire, lorsque l'homme qui n'est pas pur, comme Dieu est pur, ose profaner ce qui est pur, même si ses intentions sont bonnes, il le paie de sa vie. Et c'est le cas d'Uzza. Cette triste histoire d'Uzza se trouve en 2 Samuel 6. On va lire dans un moment, mais pas tout de suite. Pour vous donner un peu l'histoire de ce qui se passe ici, l'arche de l'Alliance avait été perdue aux Philistins avant le règne du roi Saül, sous le juge Élie. Et les Philistins l'avaient renvoyé à Israël parce qu'ils avaient souffert atrocement à cause de sa présence parmi eux, une souffrance que Franck m'a racontée une fois. L'arche avait été laissée en premier dans un village appelé Beth Shemesh, mais 70 des villageois, il y avait à peu près 5000 personnes dans le village, mais 70 des personnes, dit le texte, avaient fixé les regards sur l'arche et Dieu les avait frappés de mort. Et peut-être cela veut dire qu'ils ont regardé dans l'arche, je ne sais pas, mais ils ont fixé les yeux, fixé les regards sur l'arche. Alors, ne voulons pas que l'arche reste chez eux. Elle avait été envoyée dans la maison du prêtre Abinadab, et son fils Éléazar avait la charge de la garder. Ça c'est de 1 Samuel chapitre 7. Bon, l'arche est restée dans cette maison jusqu'à ce que le deuxième roi David soit affermi dans son règne, c'est-à-dire environ 50 ans. L'arche n'était plus dans le tabernacle, comme il devait être. Il était dans la maison d'Abinadab. Une fois affermi dans son règne, David, avec l'approbation de Dieu, a décidé de faire monter l'arche à Jérusalem où était le tabernacle. Le problème est qu'ils n'ont pas suivi les prescriptions de Dieu pour le transport de l'arche. Ainsi, en voulant faire du bien, ils ont fait du mal. Et cela a coûté la vie à Uzza. On va lire le texte maintenant. David, avec le peuple qui était auprès de lui, se leva et partit de Baal-Juda pour en faire monter l'arche de Dieu devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins au-dessus de l'arche. Il mit l'arche de Dieu sur un char neuf et l'emportèrent de la maison d'Abinadab, qui est sur la colline. Uzza et Ahio, fils d'Abinadab, conduisirent le char neuf. Lorsqu'il fut arrivé à l'aire de Nakon, Uzza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs avaient glissé. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uzza et Dieu le frappa là à cause de ce sacrilège. Uzza mourut là près de l'arche de Dieu. David éprouva de la colère de ce que l'Éternel avait frappé Uzza d'un tel châtiment. Et on a appelé ce lieu Péré-Uzza jusqu'à aujourd'hui. David craignit l'Éternel en ce jour-là. Bon, quel était le problème? D'abord, l'arche devait être portée sur les épaules. Quand vous lisez la construction de l'arche, vous verrez qu'il y avait des anneaux fixés sur les côtés pour passer les barres, pour que ce soit porté sur les épaules. Ensuite, seulement certains hommes de la tribu de Lévi avaient le droit de la porter. Et puis, sous aucune circonstance, pouvait-on la toucher sans avoir le droit, comme le souverain sacrificateur qui mettait le sang sur l'arche le jour de l'expiation, ou ceux qui avaient le droit de le transporter, parce que quand même, et même là, je me demande s'ils touchaient, ils passaient les barres, mais sans toucher, ils soulevaient et ils partaient avec sur les épaules, et couvert, l'arche était toujours couvert, pour ne pas le regarder quand ils le transportaient. Uzza et son frère, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'avaient mis sur un char neuf quand même, mais pas sur les épaules, déjà première faute. Et là, pour la mettre, ils ont dû quand même la manœuvrer selon les prescriptions de Dieu parce qu'ils ne sont pas morts. Donc peut-être ils ont passé les barres pour le mettre sur le char, je ne sais pas. Et après, le char a commencé à avancer. C'était quand Uzza a essayé de la sauver en la saisissant parce qu'elle allait tomber, qu'il est allé vraiment trop loin et a commis un sacrilège. Jusqu'à ce point-là, Dieu avait été tolérant quand ils l'ont mis sur le char, par exemple. Mais après, non. Il y avait un point, une ligne qu'il ne fallait pas traverser pour désécrer ou faire un sacrilège. Comme il avait dit à Moïse, quand il refusait de laisser Moïse entrer dans la terre promise pour une désobéissance flagrante, il a dit à Moïse, « Parce que tu n'avais pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des Israélites, Uzza n'avait pas cru en Dieu pour le sanctifier aux yeux des Israélites non plus. » Et il a été puni sévèrement à cause de cela. Mais nous apprenons que l'exemple, et voilà une leçon à prendre pour nous tous, que l'exemple que les hommes de Dieu montrent aux autres est très important aux yeux de Dieu. Surtout ceux qui sont les responsables et les chefs du peuple. Le roi Saül a été privé de son royaume à cause de sa désobéissance. Moïse a été privé d'entrer dans la terre promise après avoir conduit le peuple pendant 40 ans à cause d'une désobéissance. Uzza, de la tribu des prêtres d'ailleurs, sœur de Lévi, a été privé de sa vie parce qu'il n'a pas sanctifié Dieu aux yeux du peuple. Tous ont été punis parce qu'ils n'avaient pas sanctifié Dieu aux yeux du peuple. Ils n'avaient pas mis Dieu à part, ou ils ne l'avaient pas montré comme différente que toute autre chose, ou d'autres personnes, ou d'autres dieux, par cet acte de désobéissance. Même en essayant de faire du bien. Dieu voulait que tous apprennent à respecter sa sainteté, et parfois, par les exemples frappants et durs, il le rappelait pour les générations futures. L'apôtre Paul a écrit en 1 Corinthiens 10, 6 et 11, « Or, ce sont là des exemples pour nous, car cela leur est arrivé à titre d'exemple et fut écrit pour nous avertir. » Pour nous avertir. Étant dit ceci au sujet de la sainteté de Dieu, je ne veux pas laisser l'impression que l'homme n'a jamais été permis de s'approcher de Dieu et qu'il n'aurait jamais l'occasion dans le futur. Vous-même.